Donc cette fois-ci, ça va être le Christ pasteur, bon pasteur. Ou... En fait, c'est bien pour conclure parce que ça récapitule un petit peu ce qu'on a pu dire dans les autres haltes. Ça récapitule parce que le Christ est pasteur aussi parce que il connaît le chemin pour et il est Dieu et il est fils de Dieu, donc à la fois il est vrai Dieu, vrai homme, donc il connaît le chemin, il sait par où il nous emmène et il sait la destination, etc. Donc, et puis Christ pasteur aussi parce que donc bon, on n'a pas trop à craindre, hein, il s'est fait le serviteur, tout ça, donc il, quelquefois, on peut, par les temps qui courent, avec tous les abus et tout ça de toutes sortes, on pourrait avoir peur. Mais lui, c'est le serviteur, c'est l'agneau de Dieu. Donc, voilà. Donc, on n'a pas trop à avoir peur de lui. On peut se laisser conduire par lui. Voilà. Alors, deuxième raison pour laquelle ce titre, ça vaut la peine de s'y arrêter, c'est que c'est une image qu'on aime bien, le Christ bon pasteur. Alors, une petite interrogation. Qu'est-ce que vous préférez? Souvent, on a le Christ pasteur qui porte une brebis sur ses épaules, et puis il y en a 99 qui suivent par derrière. Vous préférez être dans les 99 ou... Tout le monde aimerait bien être sur les épaules. En tout cas, c'est une image qui parle quand même toujours, cette image du Christ bon pasteur. Et dernière raison, il y a eu trois images principales du Christ, pour faire simple, qui ont été dans l'iconographie. Ça simplifie un peu ce que je vais dire. Mais les premiers siècles, c'est le bon pasteur. Après, le Moyen-Âge, c'est plutôt le Pantocrator, là, de... Voilà, en majesté, etc. Et puis après, c'est plutôt le Christ qui partage la souffrance des hommes, la croix, etc. Donc, il y a eu un peu, pour faire simple, hein, un peu. Mais voilà, pendant tous les premiers siècles, c'était quand même beaucoup, l'image favorite, c'était celle du bon pasteur. Alors, pour une raison aussi, c'est qu'au début, donc, c'était un temps de persécution. En fait, ça pouvait avoir plusieurs significations, hein. Un berger qui porte une brebis sur ses épaules. Alors, les chrétiens savaient bien ce qu'ils mettaient derrière. Mais en fait, avant que ça soit utilisé chez les chrétiens, il y a Hermès. Hermès crie au fort. Et donc, il porte un bélier, en fait. Lui, il porte un bélier sur ses épaules. Et voilà, c'est le protecteur des moutons. Voilà. Mais du coup, pour les Romains, c'était plutôt le berger. C'est dans la Rome était une ville assez grande à l'époque et du coup c'était un peu le chaos quelque part. Et du coup le berger, ça nous ramenait à la paix de la campagne, etc. Donc il pouvait y avoir plusieurs sens. Mais pour les chrétiens, c'était clair que le sens c'est pas celui qui portait le bélier. C'était vraiment celui dont nous parle l'Évangile. Hein, dont notamment dans pas mal d'endroits de l'Évangile, mais entre autres ce qu'on a lu il n'y a pas longtemps dans le chapitre 10 de Saint Jean, hein, le bon berger. Alors je crois que vous avez étudié le psaume 22-23 là ce matin. Et du coup, pourquoi les premiers chrétiens mettaient aussi ce symbole du bon berger sur les sarcophages? Parce que c'était celui, hein, dans le psaume 23, à ce moment-là, « Si je passe un ravin de ténèbres, ton bâton me rassure. » Alors pour eux, le bâton, c'est la croix qui nous permet de traverser la vallée de la mort et qui nous emmène vers la résurrection. Donc ça avait un sens très précis pour quand ils sculptaient ça sur leur sarcophage, ça avait un sens très précis. Je crois que Jésus me fait traverser la vallée de la mort pour m'emmener vers la vie. Donc c'est pas exactement le protecteur des moutons, hein, c'est autre chose pour eux. Mais voilà, donc c'est un signe qui a beaucoup suivi les chrétiens pendant jusqu'au Moyen-Âge à peu près, puis après c'était presque un peu abandonné. Voilà. Ça, c'était l'introduction. Alors, cette fois-ci, il y aura quatre parties. Voilà, c'est pas trois cette fois-ci. Je vais reprendre cette image du pasteur dans la Bible, ce sera la première partie. Alors c'est assez rapide, hein. Après, il y aura trois aspects de la mission du pasteur. Alors c'est des choses que vous connaissez sans doute, ou peut-être, je ne sais pas. Souvent dans la mission des prêtres, on dit qu'il y a, vous connaissez les trois munus, qu'on appelle les munus, les munera, pour enseigner, sanctifier, gouverner. Non, je vais reprendre ça, mais appliquer au bon pasteur. Comme ça, ça nous donne... Puis j'aime bien le chiffre 3, comme vous avez déjà remarqué. Et puis après, pas seulement les aspects de la mission, mais la manière dont le pasteur exerce sa mission. Ce qu'on peut voir dans l'Évangile, et notamment Saint Jean au chapitre 10. Et puis après, il y aura quand même une quatrième partie. C'est bien d'avoir un bon pasteur, mais encore faut-il se laisser conduire par lui. Alors, qu'est-ce que le bon Dieu attend pour qu'on se laisse conduire par lui? Alors, donc, ça sera la quatrième partie. Alors, dans la Bible, Dieu est présenté comme pasteur de multiples manières. On lui attribue pas très souvent le titre de pasteur, mais de fait, on le compare souvent à un berger. Alors, je vais vous citer quelques petites choses. Bon, vous avez lu le psaume 22, hein, « Le Seigneur est mon pasteur, mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me parque, près des eaux reposantes, il me mène. Voilà. » Les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel reviennent souvent sur le thème du peuple comme troupeau du Seigneur. Comme un pasteur, il fait paître son troupeau. De son bras, il le rassemble. Il y a d'ailleurs beaucoup de prophètes qui étaient bergers avant de devenir prophètes et qui ont été... voilà. Et dans cette métaphore du berger, il y a deux aspects qui marchent ensemble. C'est qu'à la fois, le berger, c'est lui qui commande, et à la fois, il est le compagnon, il marche avec. Hein, il ne commande pas de sa tour de contrôle, et puis... Mais il marche avec. Alors ça, je pense que c'est un des aspects aussi qui a contribué à prendre ce titre. Hein. C'est pas, Dieu, il nous gouverne pas seulement du haut comme ça, mais il fait la route avec nous aussi. C'est un premier aspect qu'on voit souvent dans la Bible, je ne détaille pas davantage. Un deuxième aspect qu'on voit souvent dans la Bible, c'est aussi les mauvais pasteurs. Alors, il y a deux endroits en particulier, où il y en aurait plein d'autres, hein, mais je pense à Ézéchiel. C'est des passages aussi qui ont été commentés. Il y a notamment Grégoire le Grand qui a commenté ça. Alors, lui, il s'adresse aux prêtres aussi et à ceux qui exercent une mission dans l'Église, voilà, pour les secouer un petit peu, ou les encourager, ou les exhorter. Donc c'est tout le chapitre 34 pratiquement d'Ézéchiel. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. Il détaille différentes choses. Lui, il s'occupe d'eux-mêmes, mais finalement les brebis, c'est leur souci, c'est eux, c'est pas les brebis. N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas berger pour le troupeau. Voilà, donc c'est le berger qui tire profit de son troupeau, mais alors qu'il devrait être au service de son troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées faute de bergers pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Vous savez que les collines élevées, pour Israël, c'est là où on adore les idoles, etc. C'est pas simplement une colline assez haute. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. Et alors, du coup, il y a une malédiction, en quelque sorte, pour ces bergers. Jérémie dit à peu près la même chose. Je vous lis Jérémie, c'est au chapitre 23 de Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs, vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. Voilà. Je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Alors, donc, il y a le Seigneur qui est le berger, il y a les mauvais bergers. Bon. Et après, du coup, il y a aussi les brebis qui ne sont pas forcément bonnes entre elles. Il y a besoin d'un berger parce que les brebis, si on les laisse entre elles, alors c'est, je vous reprends Ézéchiel, ça ne se passe pas forcément bien quand il n'y a pas de pasteur. Voilà. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Ne vous suffit-il pas de paître dans un bon pâturage? Faut-il encore que vous fouliez aux pieds ce qui reste du pâturage? Ne vous suffit-il pas de boire une eau limpide? Faut-il que vous troubliez le reste avec vos pieds? Voilà. Voici que moi-même je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Voilà. Parce que vous avez bousculé du flanc et de l'épaule toutes celles qui étaient malades et que vous leur avez donné des coups de corne jusqu'à les disperser hors du pâturage. Voilà. Je susciterai à leur tête un seul berger, lui les fera paître, ce sera mon serviteur David, lui les fera paître, il sera leur berger. Donc, il y a le Seigneur qui est le berger, il y a les mauvais bergers, et puis il y a l'absence de berger ou le berger qui ne fait pas son travail. Et du coup, les brebis entre elles, elles ne sont pas forcément... quand il manque celui qui gouverne, ça peut être ennuyeux. Et du coup, c'est là aussi que survient l'annonce d'un pasteur. C'est dans ces circonstances-là qu'Ézéchiel annonce justement le berger. Je susciterai à leur tête un seul berger. Alors je vous lis, c'est toujours Ézéchiel au chapitre 34. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, à jour de nuages et de sombres nuées. Donc vous pourrez lire tout le chapitre 34 d'Ézéchiel. Voilà. Et du coup, c'est là qu'est annoncé ce berger, donc qui est Jésus. Alors, donc là, c'est le berger tel qui se présente dans l'Évangile. Alors, je vous ai parlé de Saint Jean au chapitre 10, alors on l'a lu il n'y a pas longtemps. Vous savez que le quatrième dimanche de Pâques, c'est toujours le dimanche du bon pasteur, c'est là qu'on prie pour les vocations. Donc on lit toujours un passage de Saint Jean au chapitre 10, la semaine dernière aussi en semaine, il y avait des textes de Saint Jean au chapitre 10, on lit l'évangile de Saint Jean pendant... Bon. Mais les autres évangélistes parlent aussi du berger. Alors, il y a des prophéties. Par exemple, Saint Matthieu, dès le chapitre 2, voilà quand il parle de Bethléem. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Donc, Jésus accomplit cette promesse du berger qui était promis. Par le prophète Michée cette fois-ci. Je vous passe les détails. On voit aussi ce berger, alors, par exemple, je passe un peu les détails, mais dans Saint-Luc, hein, on voit bien quand il va chercher la brebis perdue, etc. Donc, j'ai plein de citations, mais je vais vous les épargner. Il y a beaucoup de... Voilà. Alors maintenant, j'en viens à la deuxième grande partie, ces trois aspects de la mission du pasteur. Le munus docendi, le munus sanctificandi et le munus regendi. Ça vous donne certainement beaucoup d'émotions, tous ces mots-là. Alors... je vais, entre autres, me référer un petit peu à des catéchèses du pape Benoît XVI à la fin de l'année sacerdotale, en avril-mai 2010. Donc, il a consacré une catéchèse à chacun de ses missions du prêtre. Alors, enseigner, sanctifier, gouverner. Je croyais que vous pratiquiez le latin à la perfection. On va dire, moi, je ne pratique pas non plus, mais bon. Voilà, alors, enseigner. En fait, quand j'ai préparé cette halte, au début, il y avait plusieurs titres qui me venaient à l'esprit, notamment celui de maître, Jésus qui est notre maître. Et de fait, ça fait partie de la mission du pasteur, parce que vous êtes des brebis intelligentes, donc il faut s'adresser à votre intelligence. Et dans la mission du pasteur, une mission importante, c'est celle de l'enseignement. D'ailleurs, j'allais l'oublier, je lis mon papier en diagonale, alors j'oublie plein de choses. Et vous vous rappelez sans doute de ce passage de l'Évangile où Jésus dit « Venez à l'écart, à ses apôtres, dans un endroit désert, reposez-vous un peu. » Donc c'est ce que vous faites ici. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, il se mit à les enseigner longuement. La première chose qu'il fait, justement, ce n'est pas de leur donner du pain. C'est après, quand ils ont écouté un bon moment, ils disent, je ne veux pas les renvoyer à jeun, tout ça. Mais je trouve que c'est intéressant. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Et de fait, je pense que l'enseignement est quelque chose de très important, peut-être encore aujourd'hui notamment, parce que souvent, dans l'Ancien Testament, on disait que les gens ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche pour dire qu'ils ne savaient pas où aller. Et de fait, je crois que beaucoup de gens sont un peu perdus avec une société très relativiste. Les gens ne savent plus très bien où ils en sont. Voilà comme les repères sont un peu... On a quand même enlevé beaucoup de repères en mélangeant pas mal de choses. Du coup, on ne sait plus très bien où on en est. Et du coup, cette mission d'enseignement... Alors après, il y a la manière de le faire, mais déjà, l'enseignement d'éclairer les intelligences, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment une miséricorde que d'enseigner. Et Jésus, dans l'Évangile, il est souvent appelé maître, Rabbi, Rabouni, c'est la même chose. Rabbi, c'est plutôt en hébreu, Rabouni en araméen. Mais ça, on note aussi qu'il enseigne avec autorité. Alors, c'est vrai que ça, le fait d'être maître, ça place un peu au-dessus des autres, quelque part. Et souvent, ils interprètent la loi un peu comme les maîtres de l'époque. Et voilà ce qu'il dit à ses apôtres. C'est juste après le lavement des pieds. « Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien, car je le suis. » Mais à un autre endroit, dans Saint Matthieu, il dit « Ne vous faites pas appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître. » Alors, il ne faut pas s'attribuer le titre, mais après, Jésus nous invite à enseigner à sa suite. À sa suite, mais pas pour enseigner nos propres idées, mais pour transmettre l'Évangile. Ou qui va un peu dans le même sens, il y a aussi ce que Jésus dit dans l'Évangile de Saint Jean, toujours, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Hein, ça va encore un petit peu dans le même sens. Il nous donne l'orientation. Alors voilà ce que disait Benoît XVI, donc le 14 avril 2010. Nous vivons dans une grande confusion en ce qui concerne les choix fondamentaux de notre vie et les interrogations sur ce qu'est le monde, d'où il vient, où nous allons, ce que nous devons faire pour accomplir le bien, la façon dont nous devons vivre, quelles sont les valeurs réellement pertinentes. Dans cette situation se réalise la parole du Seigneur qui eut compassion de la foule parce qu'elle était comme des brebis sans pasteur. Le Seigneur avait fait cette constatation lorsqu'il avait vu des milliers de personnes qui le suivaient dans le désert, car face à la diversité des courants de cette époque, elle ne savait plus quel était le véritable sens de l'Écriture, ce que disait Dieu. Le Seigneur, animé par la compassion, a interprété la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu et il a ainsi donné une orientation. Voilà. Donc c'est ça que le prêtre est appelé à faire à la suite de Jésus. Le prêtre n'enseigne donc pas ses propres idées, une philosophie qu'il a lui-même inventée, qu'il a trouvée ou qui lui plaît. Le prêtre ne parle pas de lui, ne parle pas pour lui, pour se créer éventuellement des admirateurs ou son propre parti. Il ne dit pas des choses qui viennent de lui, ses inventions. Mais dans la confusion de toutes les philosophies, le prêtre enseigne au nom du Christ présent. Il propose la vérité qui est le Christ lui-même, sa parole, sa façon de vivre et d'aller de l'avant. Voilà. Alors donc, ça c'est trois missions. Hein. Donc c'est, la première c'est enseigner, éclairer les intelligences. La deuxième c'est de sanctifier. C'est finalement de transmettre la grâce. Et Jésus, quand il dit qu'il nourrit ses brebis, qu'il donne une nourriture, il leur donne la vie, hein, quand il est la vie, c'est ça aussi, c'est sanctifier, transmettre la vie de Dieu. Ben, je vous cite Jean-Paul II cette fois-ci. Le pasteur nourrit ses brebis et les mène à des pâturages frais et abondants. Jésus est venu pour apporter la vie aux âmes, pour la donner en abondance. Jésus nous donne la grâce, c'est-à-dire la vie divine, par le baptême et les autres sacrements. Moyennant la grâce, nous devenons participants de la nature trinitaire même de Dieu. Voilà, et donc, c'est cette vie qu'il nous donne en mourant sur la croix, en offrant sa vie. Alors, donc, le premier, c'est enseigner, là, c'est sanctifier. Alors, Benoît XVI se pose la question, mais qu'est-ce que signifie le mot « saint » ? Mais finalement, c'est nous mettre en contact avec Dieu qui est saint. Et ça, ça se fait notamment, pas seulement, mais notamment par les sacrements. Et donc, c'est Jésus est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Hein, et qui nous la donne aujourd'hui bon, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de la réconciliation. Et la troisième grande mission du pasteur, alors celle-ci, elle nous apparaît avec plus d'évidence, c'est le fait de gouverner. Alors c'est compliqué aujourd'hui, hein, le gouvernement, c'est vrai qu'il y a eu des abus d'autorité, etc., mais même sans parler des abus d'autorité dans l'Église, je pense que comme mère de famille, c'est compliqué de gouverner vos enfants, j'imagine. Aujourd'hui, l'obéissance, c'est quand même quelque chose de plus difficile que peut-être. Il y a une époque où on ne demandait pas trop l'avis des enfants, allez, tu obéis, et puis point. Aujourd'hui, ça ne peut plus se faire exactement comme ça. Bon, ça dépend de l'âge, bien sûr, des enfants, mais du coup, cette mission de gouverner, on a plus de mal à la comprendre, peut-être. Et en même temps, l'autorité, c'est tout à fait essentiel, hein, parce que. Encore une fois, alors dans les passages de l'Ancien Testament, le gouvernement permet de garder un troupeau uni aussi. Et ça, et l'autorité, bon, c'est au service des autres, c'est pour servir le bien des personnes, bien sûr. Dans cette mission du gouvernement, il y a une attention particulière aux plus fragiles. On le voyait dans le reproche, quand les brebis étaient entre elles et qu'il n'y avait pas de berger, ben du coup, les fortes, elles écrasaient un peu les faibles, elles en profitaient, puis elles troublaient l'eau pour que les autres n'aient plus à boire. Elles étaient les premières arrivées. Et du coup, ben pareil, le pasteur, qui est d'abord Jésus, et les prêtres à sa suite, mais bon, à cette mission Et on voit bien Jésus, sa proximité avec les plus petits, les plus fragiles, justement, dans cette mission du pasteur, toujours. Venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Et Jésus est souvent Dans l'évangile, on le voit souvent, oui, aux proches des petits pour encourager. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Le berger aussi a une autre mission, c'est de protéger, de défendre et de protéger les brebis du loup et des dangers. Jésus ne nous promet pas que notre vie sera forcément facile et qu'il n'y aura pas de danger ou pas d'épreuve. Il ne nous promet pas ça, mais il nous promet qu'il est présent. Hein. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Mais il y a des dangers, il y a des épreuves. Saint Paul avait foi en Jésus, berger. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Moïse qui disait dans le Deutéronome, « Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n'ayez pas peur devant vos ennemis. Le Seigneur, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » C'est quelque chose qui revient souvent dans la parole de Dieu, justement, de pouvoir s'appuyer sur le Seigneur, dans le psaume 15. « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » Le psaume 26, alors on chante souvent le refrain. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ?» Voilà, donc c'est cette haute mission du berger qui est de nous défendre du danger ou dans l'épreuve. Et puis le berger qui veut accroître son troupeau, qui ne peut pas se faire une raison aussi qu'il y en ait qui soient loin. C'est Jésus qui dit dans Saint Jean, « J'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, je dois les mener, elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. » Voilà, c'est cette ouverture et cette attention aux autres. Alors, troisième chose. Après ces trois aspects de la mission, enseigner, sanctifier, gouverner, c'est plutôt la manière dont le pasteur exerce sa mission. Dans un contexte où on dénonce à juste titre les abus qu'il y a pu y avoir, la parole de Dieu, elle nous dit quelque chose déjà des intentions du bon Dieu pour nous gouverner. Alors, par exemple, Saint Jean 3, chapitre 3, au verset 16 et 17, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Alors, c'est un peu l'intention générale. Après, je vais donner quatre éléments sur la manière dont le pasteur exerce sa mission, et pour nous prêtres, ben, c'est de prendre de la graine, prendre exemple sur Jésus. Comme on le voit dans le chapitre 10 de Saint Jean, il y a un lien particulier entre les brebis et le pasteur. « Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Alors, je vous cite Jean-Paul II, en 79. « Le pasteur connaît ses brebis et les brebis le connaissent. Comme il est beau et consolant de savoir que Jésus nous connaît un par un, que nous ne sommes pas des anonymes pour lui, que notre nom, ce nom choisi avec amour par les parents et les amis, lui, il le connaît. Nous ne sommes pas une masse, une multitude pour Jésus. Nous sommes des personnes. » Des individualités ayant une valeur éternelle, tant comme créature que comme personne rachetée. Lui, il nous connaît. Lui, il me connaît, il m'aime, et il s'est livré pour moi. Alors donc, d'abord, cette relation personnelle. Deuxième chose, c'est aussi le désintéressement de Jésus. Il ne vient pas pour abuser de nous, si je puis dire, ou pour profiter de nous, mais comme il le dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il donne sa vie pour ses brebis. Et alors, c'est beau, alors dans tous les textes de Saint Jean, je ne sais pas si vous accédez facilement dans ces textes de Saint Jean, il y a des textes qui sont plus difficiles à entendre, ou je ne sais pas, ça dépend si on a un esprit un peu cartésien ou tout ça, alors on a du mal un peu à s'y repérer. Mais dans les textes de Saint Jean, ce qui est très très marquant, c'est que chaque personne de la Trinité ne travaille pas pour elle-même, si je puis dire comme ça. C'est toujours Jésus, il s'occupe du Père, le Père s'occupe de Jésus, l'Esprit Saint s'occupe. Mais du coup, voilà, on voit ce décentrement. Et de toute façon, c'est dans leur nature, hein, les personnes de la Trinité, c'est des relations subsistantes, nous dit la savante théologie. Mais voilà, les personnes de la Trinité ne peuvent pas être auto-centrées. Et Jésus, il nous conduit vers le Père, il ne nous conduit pas à lui. Hein. Et c'est toujours rassurant de voir que quelqu'un ne nous ramène pas à lui, mais il nous conduit vers un autre. Toujours sur la manière dont le pasteur exerce sa mission, c'est la douceur. Jésus qui est doux et humble de cœur. Alors cette fois-ci, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, je cite le pape François. C'était le 14 septembre 2016. « Mettez-vous à mon école. Jésus n'est pas un maître qui, avec sévérité, impose aux autres des poids que lui-même ne porte pas. Il s'adresse aux humbles et aux petits, aux pauvres, aux nécessiteux, parce que lui-même s'est fait petit et humble. Il comprend les pauvres et ceux qui souffrent, parce qu'il est lui-même pauvre et éprouvé par les douleurs. Pour sauver l'humanité, Jésus n'a pas parcouru un chemin facile. Au contraire, son chemin était douloureux et difficile. » C'était un pasteur parmi les personnes, parmi les pauvres. Il travaillait toute la journée avec eux. Jésus n'était pas un prince. Donc voilà, mais cette manière de Jésus d'être proche des... Et puis la douceur et la miséricorde. Jésus qui se laisse pas arrêter par nos péchés. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, c'est dans le chapitre 15 de Saint-Luc qui est dédié à la miséricorde. Alors, il y a un passage avec la brebis qu'il prend sur ses épaules. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Donc ça, c'était la partie sur la manière dont le pasteur exerce sa mission. Et puis dernière chose, c'est nous laisser conduire par Jésus. Alors j'ai pensé à trois points, deux qui sont évidents et puis un peut-être un peu moins. Le premier point qui me paraît assez évident, c'est d'avoir confiance. Le psaume 22, encore une fois, c'est vraiment le psaume de la confiance envers Dieu, où on se laisse conduire. Parce que le berger, il ne peut pas nous conduire si on n'a pas confiance en lui. Il peut exercer sa sollicitude dans la mesure où on lui fait confiance, mais c'est vrai pour nous vis-à-vis de Jésus. Si on n'a pas confiance en lui, il ne pourra pas faire grand-chose. Alors, ce n'est pas une confiance aveugle, parce que c'est saint Paul qui dit à Timothée, « Je sais en qui j'ai cru. » On voit dans la manière dont Jésus s'y prend et tout ça, on voit sa manière de faire. Donc, ce n'est pas une confiance aveugle. Et c'est une confiance, oui, la foi en sa présence, hein, la foi et la confiance. Un deuxième élément qui vient après la confiance, c'est la docilité. C'est d'accepter de suivre le chemin qui nous indique. La confiance, c'est une chose, la docilité, c'est une chose, c'est le deuxième pas, on pourrait dire. C'est de se laisser conduire. Alors, on le voit souvent dans les psaumes. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant qu'il me guide en un pays de plaine. Et le troisième point que j'ai pensé pour se laisser conduire par Jésus, c'est dans le psaume 22. On dit qu'il y a un temps où on voit qu'à un certain moment, il propose un banquet à ceux qui le suivent. Alors, c'est un temps qui s'appelle l'inaccompli. Alors, c'est un temps en hébreu. Il n'y a pas de futur en hébreu, mais du coup, l'inaccompli, ça évoque à la fois le présent et le futur. Alors, ce que ça veut dire, c'est derrière, c'est qu'il ne faut pas attendre d'arriver au ciel pour rendre grâce. Déjà maintenant, il faut rendre grâce. Et quand notre pasteur, qui est Jésus, c'est important déjà d'entrer dans cette action de grâce pour nous laisser conduire par lui. Déjà maintenant, rendre grâce pour les éléments que nous avons pu découvrir. Dans le psaume 23, on parle de goûter comme... Alors, c'est un autre psaume aussi qui fait référence, mais goûter comme le Seigneur est bon. Mais ce fait de goûter, ça veut dire qu'on savoure, on ne l'avale pas tout rond. Hein, c'est quelque chose que... Et pour goûter la manière dont le Seigneur nous conduit, ça demande de prendre un petit peu de temps dans la méditation, pour apprécier ce que le Seigneur fait pour nous, et pour apprécier les grâces qu'il nous accorde. Et le pape François disait, je crois que c'est dans sa première lettre en décembre 2013, alors dans cette lettre il disait, mais il ne faut pas attendre d'être arrivé pour fêter ses réussites. Et déjà aujourd'hui, on a besoin d'étapes intermédiaires avant d'être arrivé au sommet. On peut déjà se réjouir du chemin déjà parcouru, sans attendre d'arriver jusqu'au bout. Et voilà. Et c'est ce qu'on fait dès maintenant. Voilà. Alors j'en arrive déjà à la conclusion. Alors je suis plus bref que les autres fois. Hein. Alors, comme conclusion pour cette halte spirituelle pour le pasteur, la première, c'est, vous vous rappelez, dans Saint Jean au chapitre 10, le pasteur fait sortir ses brebis. Il les fait sortir. Alors, ça veut dire que nous, on aimerait peut-être rester la petite brebis tranquillement sur les épaules du pasteur, mais non, il les fait sortir. Et nous aussi, il y a une manière d'être envoyé par Dieu aussi pour aller chercher ceux qui ne sont pas encore dans le bercail. Voilà. Je pense qu'il y a une invitation, hein, sur laquelle revient souvent le pape François, hein, de sortir à la rencontre des autres qui n'ont pas encore rencontré ce berger qui les mène avec douceur, miséricorde. Une deuxième piste dans cette conclusion, c'est de prier pour les vocations. Je vous répète encore ce verset de saint Marc, chapitre 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Voilà. Priez, alors ça c'est un autre passage, c'est saint Matthieu ou saint Luc. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie de nombreux ouvriers à sa moisson. Voilà. Alors ça c'est, je pense, un appel aussi. Il y a besoin de pasteurs. Même si on a plein de saints laïcs, il y a besoin de pasteurs. Et troisième élément auquel je pensais en guise de conclusion, c'est de prier pour ceux qui sont déjà pasteurs, pour qu'ils deviennent des saints et qu'ils exercent bien leur mission, qu'ils ne dérivent pas, etc. Qu'ils soient vraiment des bergers selon le cœur de Dieu. Alors, Saint-Pierre a une belle, dans sa première épître au chapitre 5, il a une belle exhortation pour les pasteurs. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontiers, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, je trouve que c'est... Voilà. Et du coup, j'ai trouvé une prière. Je peux la donner à quelqu'un pour qu'il la lise pour moi, comme ça. Bon, je l'ai un peu bricolé, hein, mais je trouve que c'est intéressant. C'est important aussi que vous priez pour vos pasteurs. parce qu'ils ne sont pas forcément toujours à la hauteur et où ils n'ont pas forcément les forces nécessaires. Donc votre prière est importante.
Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier pour la vie de mon pasteur, une personne que tu as choisie comme instrument pour me guider sur ton chemin. Je demande que l'onction de ton Saint-Esprit soit sur sa vie et renforce quotidiennement le ministère que tu as placé en lui. Donne-lui la sagesse afin qu'il puisse être un bon intendant des choses du royaume et qu'il puisse instruire ton Église selon ta parole. Bénis-le de sorte qu'il fasse toujours preuve d'une conduite exemplaire, reflétant à tous ceux qui l'entourent le témoignage et l'amour du Christ. Aide-le à maintenir chaque jour une vie de prière et de communion avec toi, afin que la chose la plus importante pour lui soit la présence de ton Esprit Saint. Je demande que tu fasses briller ton visage de telle sorte que ta grâce et ta faveur restent toujours toute sa vie. Donne-lui la force et le courage de relever les défis. Fortifie-le afin que dans chaque épreuve ou tentation, il soit victorieux. Seigneur, je demande que tu le gardes de toute ruse et piège de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen.
Alors, si vous avez des questions, mais... Oui, oui. Ah ben, bien sûr. Oui, sur le site, vous pouvez les trouver. Hein. Vous trouverez toutes les citations que je n'ai pas données. Voilà, il y en a un certain nombre, mais voilà. Allez-y. Alors, souvent, toujours, je ne sais pas, mais souvent, c'est vrai. Alors, peut-être parce que c'était aussi une... C'était souvent les plus petits, parmi les plus petits, les bergers, mais de fait, oui, Fatima, Lourdes, la Salette.